Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, mais nous allons cette semaine, après une courte pause, retrouver Roland Dumas. Alors je préciserai le temps qui a passé, que Roland Dumas est né à Limoges le 23 août 1922. Son père résistant sera à Brantôme, une des victimes de l'armée allemande. Une avenue de Limoges porte d'ailleurs son nom. Alors également impliqué dans la résistance, son fils sera arrêté et interné. À la libération, il reçoit la croix de guerre et la croix du combattant volontaire. Journaliste, licencié en droit, il s'inscrit au barreau de Paris. Avocat reconnu, il plaide dans les grands procès de l'époque et défendra notamment le canard enchaîné. Sur le plan politique, en 1956, député S. Fillot de la Haute-Vienne, puis élu en Corrèze en 1967, il sera battu en 1968, il sera de nouveau élu en 1981-86-88 en Dordogne sans y être vraiment résident. Ministre des Affaires européennes en 1983, puis ministre des Relations extérieures. En 1986, il est élu président de la Commission des Affaires étrangères et participera à la réunification allemande. En 1995, il est à la tête du Conseil constitutionnel et fera voter l'immunité judiciaire du président de la République. Mais les affaires publiques le rattrapent et l'obligent à se mettre en congé du Conseil constitutionnel. Il sera remplacé par Yves Guénat, qui retrouvera à Périgueux. En 1999, redevenu avocat, il installe son cabinet dans l'ancien atelier de Camille Claudel. Décédé à Paris le 3 juillet 2024 à l'âge de 101 ans, Roland Dumas est inhumé civilement à Limoges. Il sera un bon ministre et négociateur, il laisse quelques écrits, entre autres « J'ai vu la Chine » en 1960, des avocats en 1977, plaidoyer pour Roger Gilbert Lecomte en 1985, dont la sentence sera jurisprudence. L'épreuve et l'épreuve en 2003 et dans l'œil minotaure le labyrinthe de mes vies en 2013 et Picasso, ce volcan jamais éteint avec Thierry Savatier en 2018. Alors, nous allons reprendre aujourd'hui, après ce court exposé, aujourd'hui deux de ses ouvrages, L'épreuve et l'épreuve, paru chez Michel Lafon en 2003, volume de 438 pages dans lequel, preuve à l'appui, l'analyse sa vie politique parfois mouvementée. Et puis, il y aura Dans l'œil du Minotaure, édition de Cherche Midi, paru en 2013. Alors, bien sûr, il va se rendre en Dordogne, où il est élu, donc il sera élu dans le Sarladais, et voici ce qu'il nous dit. Un chapitre qui s'appelle « La rencontre ». Comme le lierre qui s'accroche aux vieilles pierres, les événements se sont noués, puis enroulés autour de mes rencontres que le destin m'avait réservées en orientant mes pas vers ce point de France où la terre est faite pour l'accueil, le Périgord. Comment me suis-je retrouvé candidat aux élections législatives de mai 1988 dans la 4e circonscription de la Dordogne qui recouvre le Périgord noir, ainsi dénommé, en dépit de la luminosité de son ciel? À cause de Jacques Pasqua, à cause de lui, j'allais me présenter dans cette région dont Sarlat est la capitale. Cette ville aux multiples toits de lauzes, au petit palais Renaissance dont les façades changent de couleur avec les heures du jour et brillent comme un diamant qui n'a rien perdu de son éclat avec le temps. Et poursuit, bonjour, on va pas donner toute la lecture, et poursuit ainsi, la décision de principe était accompagnée d'un découpage de circonscription, autant dire d'un véritable saucissonnage. La circonscription où j'avais été élu pour la première fois en Dordogne en 1981, où je m'étais installé, se trouvait amputé d'un canton, celui précisément d'où je tenais mon élection. Le canton en question, Saint-Pierre-de-Chignac, basculé dans le plan Pasqua sur la circonscription voisine, celle de Sarlat. Cuisine électorale, s'il en est. Habituel, direz-vous, je n'en dis combien pas, mais je n'étais pas obligé de la subir. Mon sang, mon instinct ne firent qu'un tour, je décidais de suivre cette partie d'électorat où je disposais d'une confortable majorité. J'annonçais ma décision d'être candidat dans cette portion du territoire où la beauté des paysages dispute la gentillesse des habitants. La circonscription de Sarlat, je protestais bien sûr pour stigmatiser la manœuvre qui visait à m'éliminer et je fis une fois encore un superbe pied de nez à mes adversaires. Il ne me restait plus qu'à creuser de nouveau mon trou politique et m'implanter et à me faire élire, ce qui n'est pas toujours très simple. Voilà, alors, pour suivre un peu ce chapitre, pour affirmer plus encore ma présence, j'ai décidé de passer mes premières vacances poste électoral dans l'arrondissement que je venais de conquérir, au bord de la Vézère, séduisante rivière qui serpente paresseusement, comme pour mieux profiter des paysages. Au mois d'août, dans une chaleur torride, je me rendis à Saint-Chaubras, lieu de vie et de résidence depuis plusieurs générations de la famille Devier. Curieusement d'ailleurs, le père et la mère de Christine portent le même nom, bien que n'étant pas parents. Après m'être égaré, avoir demandé mon chemin à plusieurs reprises, dérangé les participants d'une tonnosse campagnarde, je traversais tous ces villages dont les noms se terminent en hac, pour aboutir sur le plateau du Cos à La Dornac, petite commune de quelques centaines d'habitants. Alors donc un peu plus loin, voilà ce qu'il nous dit. J'avais en effet commencé d'assurer mon implantation dans le département de la Dordogne dès 1981. L'écho de mon succès à cette époque était arrivé jusqu'à Saint-Chaubras, où ce jour-là, 7 ans plus tard, la famille Devier m'attendait. Le lieu-dit est situé en pleine campagne et ne comprend que quelques feux. La maison basse des Devier comporte un corps de bâtiment en pierre. Le reste est fait d'anciennes granges améliorées, voire transformées, le tout à la forme d'un quadrilatère d'habitation distribué autour d'un jardin rectangulaire. Alors, Marcel Devier, bon, c'est quelqu'un que j'ai bien connu à une certaine époque à Sarlat. Et donc je pourrais préciser que Marcel Devier était instituteur de formation. Il fut professeur de dessin au Collège Jabot ici à Sarlat. Peintre de talent, il est également auteur de plusieurs timbres-poste. La commune d'Archignac, sa commune natale, lui a consacré un musée que l'on peut évidemment visiter. Il est également l'auteur du chemin de croix de l'église paroissiale. Né en 1917, décédé en 2001, il aimait raconter, et on le verra après, qu'il allait près des grottes de Lascaux chercher des terres de couleur pour faire des coloris de ses tableaux. Et voilà ce qu'on nous dit par la suite. Donc je reprends la lecture de l'épreuve de Roland Dumas. Alors je passais une première soirée dans ce pays où la végétation est rare, faite de l'orne et de petits arbres rabougris qui puisent dans le sol aride et de maigre pitance, fait pays de chênes nains où poussent des champignons et des truffes que l'on ramasse à la saison, des châtaignes, et l'on y gave des oies pour fabriquer le foie gras. Je ne connais personne qui ait résisté au charme de cette région pauvre mais envoûtante. Alors, un peu plus loin, voilà ce qu'il nous dit. Le père de Christine, séparé de son épouse, habitait à quelques kilomètres de Saint-Chaubras, dans un petit village au nom périgourdain d'Archignac. C'est là que je devais faire sa connaissance quelques jours après ma première visite. Sa fille m'avait conduit près de lui, je voulais le remercier du rôle qu'il avait joué pour moi dans le canton où il faisait figure de vieux sage, d'esprit libre et d'homme de gauche à tendance libérale, ou libertaire plus exactement. Comme pour s'excuser, Christine m'avait prévenu que j'allais me trouver en face d'un vieil ours solitaire, vivant au milieu de ses peintures et sculptures dans une maison de célibataire où le souci du ménage n'était pas la préoccupation première. La description du lieu se révéla conforme à la réalité, celle de l'homme Marcel Devier, beaucoup moins. Il m'accueillit sous le porche de sa demeure, devant le portail, vêtu d'un costume de velours côté. Il s'était fait coquin à l'honneur de sa fille et de son visiteur. Il se tenait droit. Je remarquai tout de suite qu'il avait perdu son avant-bras gauche et sut bientôt que c'était suite à un drame qui avait eu lieu pendant la drôle de guerre. Sa crinière d'un blanc éclatant me frappa. Voilà, alors, comment je pourrais dire, bien sûr, le texte va continuer. Un coin perdu de ce labyrinthe était censé servir de chambre à coucher. Derrière ses grosses lunettes d'écaille, le maître des lieux, ancien professeur de dessin, devenu peintre, sculpteur et graphiste, avait décidé de se consacrer entièrement à l'art. Il parlait lentement, roula les airs, paraissant détaché des choses du monde, mais attentif à tout, à la politique comme à la culture. Une centaine de ses tableaux étaient entassés chez lui avec des dessins de sa main. Il m'en a offert à l'occasion de cette première rencontre, un homme de sculpture couverte de mousse, dans l'un de ses ateliers, des gravures destinées à des illustrations d'œuvres classiques telles que les Fleurs du Mal ou d'œuvres régionales comme Jacques le Croquant étaient éparpillées sur de vieilles tables brinque-ballantes. Voilà, c'est tout à fait Marcel Devier. Alors, je vais continuer un tout petit peu sa technique, sa façon de peindre. Donc, Marcel Devier, sa technique, sa façon de peindre intriguait tous ceux qui s'intéressaient à son art. Je peins avec des produits naturels, comme je disais tout à l'heure, expliquait-il, en les mélangeant aux tubes de peinture traditionnelle. Il ramassait de la terre et la faisait vibrer sur ses toiles avec d'autres éléments. Il se faisait affirmer, je crois, avoir réinventé la chose, car nous ignorons toujours avec quels éléments les artistes de Lascaux ont décoré les parois des grottes. Je présume qu'ils utilisaient eux aussi, entre autres, la terre du lieu, comme je le fais moi-même. Voilà, on va continuer un tout petit peu. Alors, voilà ce qu'il va nous dire. Quelquefois, le matin, sa fille Christine m'accompagnait là où je devais affaire. Nous empruntions l'une des deux routes conduisant à la vallée. Je saluais d'un signe de main l'ingénieur hydraulicien qui effectuait des gestes techniques dans les cabanes isolées, perdues au milieu d'un champ où quelques commerçants plantés sur le pas de la porte. En chemin, la radio marchait à tue-tête, je ne résistais pas, c'est l'un de mes défauts, faire étalage de mes connaissances musicales, même si celles-ci se révèlent souvent incomplètes. Alors, je dois dire que Roland Dumas avait une très jolie voix et qui avait par un moment, privilégié un peu une carrière lyrique. Voilà, alors, donc ils vont aller en Sarlat, elle aimait travailler avec un républicain espagnol qui avait, après la défaite, s'était installé en Périgord, elle parlait également l'anglais avec une apparente facilité malgré la pauvreté de son vocabulaire. Les jours où je rentrais tard, je décidais de ne pas regagner Paris, je disposais d'une chambre aménagée sous les combles. Voilà, alors, visiter Sarlat, nous traversions Sarlat, d'un coup d'œil aux fenêtres à meneaux de la maison de la Boétie, ce bijou de la Renaissance italienne, bien évidemment, excitation pleuvée, une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine, etc. Nous parcourions les ruelles, les venelles, faisions halte devant le présidial construit sous Henri II à la fin du XVIe siècle et qui avait servi pendant plus de 100 ans de palais de justice. Le présidial était doté d'une prison souterraine que je visitais à plusieurs reprises. Alors, il serrait bien sûr quelques mains, mais bavardait avec les maires notables croisés dans la rue principale, dénommée La Traverse, parce qu'elle coupe la cité en deux parties égales, comme les deux parties d'un fruit bien rond. Alors, il visitait bien sûr les chefs-lieux du canton, les communes, après les autres. Donc, il va faire sa campagne, autrement dit. Hein. Il rajoutera aussi à la fin, la vie trépidante que je menais ne permettait guère d'autres haltes, et les voyages en tant que ministre des Affaires étrangères n'allaient pas se raréfier avec des années. Le seul relevé du service des avions du GLAM, alors le GLAM, c'est le groupe de liaison aérienne ministérielle, il s'agit d'avions mis au service des membres du gouvernement. Ça apparaît qu'en 1991, j'ai parcouru 520 000 km représentant 500 heures de vol et séjourné 200 jours à l'étranger. À ça s'ajoutaient les déplacements aériens effectués sur les avions de ligne, s'il en fut, ainsi qu'en 1993, date à laquelle je quittais le Quai d'Orsay. Voilà, alors on va laisser Roland Dumas. Alors Roland Dumas, je l'ai rencontré, je l'ai connu, il y a quand même quelques années de cela, et j'ai eu le privilège de faire un de ses discours, qui était fait pour la réception de la paysse de France qui était périgourdine à l'Élysée. Voilà, où il nous avait accueillis, on m'avait demandé de faire son discours. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, on va passer, bien sûr, rapidement à son autre livre, Dans l'œil du Minotaure. Voilà ce que nous dit la quatrième de couverture. Le personnage aux multiples facettes, Roland Dumas passe en revue les rencontres majeures de sa tumultueuse vie d'avocat et de chef de la diplomatie de François Mitterrand pendant de nombreuses années. D'artistes comme André Masson ou Pablo Picasso ont initié au labyrinthe du Minotaure où s'affrontent sexe et violence. Des écrivains tels que Georges Bataille, Jean Genet ou Pierre Guillotat lui ont appris que l'homme doit tutoyer les dieux sans crainte de se confronter au malin. Des Mazarin, à l'instar de François Mitterrand, à qui il doit toute sa fulgurante carrière dans l'arène politique, des pirates de la politique tels que Jean-Marie Le Pen, prêt à tous les coups de Trafalgar, des dictateurs nommés Mohamed Kadhafi ou Hafez El-Assad, prouvant que le diplomate se pare ainsi des dépouilles de Thésée pour déifier le monstre jusque dans son antre, des femmes et des sirènes, enfin dans ce dédale d'une existence dont on ne perçoit pas toujours la logique, des vies d'un fil d'Ariane qui permet de retrouver la sortie. ce fil qui tisse toute une vie s'appelle passion. Entrez donc dans l'œil du Minotaure. Voilà, et bien moi, je vais vous dire sans doute à la semaine prochaine. Voilà, n'oubliez pas le parasol.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.